Motion. Et voilà. Bonjour frères et sœurs, donc on va continuer notre étude dans Luc. Je vous invite à tourner dans Luc 11 pour ceux qui n'étaient pas présents. Ils sont enregistrés, donc j'imagine qu'ils peuvent aller voir sur le site. Hein, si vous voulez suivre les quelques dernières prédications que j'ai faites sur Luc ici à Montréal. Et que je fais aussi à Actonville, donc ils sont sur notre site aussi. Là. Aujourd'hui, on va voir les passages de Luc 11, versets 27 à 36. Si vous vous rappelez, la semaine passée, on avait vu la réponse de Jésus aux fausses accusations qui étaient portées par ces Juifs, ces scribes, ces pharisiens, qui disaient que Jésus avait guéri le démoniaque par la force de Béelzébul, par la force essentiellement de Satan. Jésus leur explique comment c'est illogique, irrationnel que de dire qu'il avait fait cette guérison par la puissance de Satan, puisque évidemment, Satan ne se bat pas contre son propre royaume pour se diviser lui-même. Une guérison était nécessairement une délivrance divine. Et Jésus va finir dans ce passage par nous expliquer la suprématie de son ministère, de sa personne, de sa résurrection, etc. La suprématie de Christ qui vient non seulement faire le ménage dans la maison, mais habiter la demeure. Donc, faisons la lecture et ce matin, Jésus revient, hein, c'est dans le même bloc de texte, dans le même thème que Jésus enseigne. Et maintenant qu'il a repris les Juifs, il va reprendre les quelques incrédules qu'il y avait dans cette foule. Parce que si vous vous rappelez, la foule en grande majorité était estomaquée par le miracle de Jésus, mais il y avait ces pharisiens qui ont porté des fausses accusations. Et il y avait les incrédules aussi qui... essentiellement, disait à Jésus, on a besoin de plus de preuves. On veut d'autres miracles. On veut que tu nous démontres quelque chose qui nous dit que tu es le Fils de Dieu. Donc, lisons après ça, on va faire une courte prière. Luc 11, versets 27 à 36. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit, « Heureux le sein qui t'a porté, heureux les mamelles qui t'ont allaité. » Et il répondit, « Heureux plutôt celui qui écoute la parole de Dieu et qui la garde. » Comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire, « Cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. » La reine de Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Les hommes ninivites se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout le corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbre. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Oui, Seigneur, nous prions que tu illumines, Seigneur, ce texte des Écritures à notre esprit, que tu nous fasses connaître, comprendre, Seigneur, ces choses, et que tu mettes en nos cœurs une application, l'obéissance à ta parole. Comme notre frère l'a mentionné au début tantôt, Seigneur, que cette parole soit vraiment tout pour nous, qu'elle conduite nos pas, nos pensées, et nos actions à chaque jour dans le quotidien et dans l'Église. Amen. Jésus a répondu aux fausses accusations des Juifs et maintenant il tourne son attention sur ces incrédules. Bon, on pourrait dire que les Juifs étaient une forme d'incrédule en soi, mais dans le cas des Juifs qui l'accusaient, c'était vraiment plus spécifiquement des fausses accusations qu'il portait contre lui. C'est un autre péché. Les incrédules pêchent aussi contre Dieu, mais d'une autre façon. Et ce lien est fait dans l'histoire par ces 3-4 versets qu'on voit entre les deux, d'une femme qui s'écrie de la foule et qui dit « Bénie la mère, bénie celle qui a porté Jésus ». Et on sait évidemment que par d'autres passages des Écritures, la mère de Jésus est bénie de par l'œuvre qu'elle a pu avoir dans ce monde de porter le Rédempteur. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle elle est réellement bénie. Jésus rétorque « Heureux plutôt celui qui écoute la parole de Dieu et qui la garde ». C'est évidemment un écho des passages dans Jacques 1 qui nous disent essentiellement la même chose, qui nous décrivent un homme intègre et qui nous disent comment un homme intègre devrait vivre. Hein, si on dit qu'on est chrétien, on devrait vivre comme des chrétiens. Et voici à quoi ça ressemble de vivre comme un chrétien. Sinon, on peut dire des choses, mais bon, ça vaut ce que ça vaut. Le Reform Commentary dit ceci à propos de cette scène, de cette femme que j'ai trouvé bien le commentaire. Il dit « Plutôt que de devenir un objet de nos louanges, Marie sert d'exemple à notre foi. Somme toute, sa relation la plus importante avec Jésus n'était pas tant en tant que sa mère pour son fils, mais en tant que pécheur pour son sauveur et comme disciple pour son Seigneur. » Comme le dit Augustin dans son traité sur la Sainte Virginité, Marie a été plus bénie en acceptant la foi du Christ qu'en concevant la chair du Christ. Marie a été plus bénie en recevant Christ comme son sauveur qu'en portant sa chair. Marie a dû être sauvée comme le reste d'entre nous. Elle n'était pas parfaite. Et donc, cette femme qui s'écrit « Bénie soit la mère de ta mère », parce que probablement qu'elle est en extase, elle vient d'entendre la réponse de Jésus aux Juifs, et là, elle dit « Ça fait plein de sens, loué soit Dieu », puis elle loue la mère de Jésus, mais Jésus lui rappelle « Oui, Marie est bénie d'entre les femmes, mais pas juste parce qu'elle a enfanté le Messie, mais aussi parce qu'elle a été sauvée par cet enfant, spirituellement. » Et donc, bénie ceux qui écoutent et qui croit. Vous savez, cette femme, quand on va revenir vers l'incrédulité, là, ce qui est fantastique de voir, c'est que Jésus répond à cette femme et que Luc utilise ça pour faire une transition entre les fausses accusations et les incrédules. Et on voit très bien que cette femme n'est pas incrédule. Elle avait compris, elle avait la foi que Jésus était ce Messie et que sa mère était bénie. Donc on voit ici une petite fenêtre, une petite image de non pas d'incrédulité, mais de crédulité. Hein, le contraire, de croire. Et c'est là qu'on arrive dans le cœur de la réponse de Jésus face aux incrédules. Et spécifiquement dans le texte qui nous est enseigné, hein, c'est une drôle de coïncidence qu'Augusto ait parlé de cessationnistes, ce qui nous est enseigné, c'est des gens qui réclament toujours des miracles, plus de sensationnels. Et Jésus leur dit, il traite cette génération de génération méchante, incrédule. Et une grande foule s'amasse, évidemment, comme à chaque fois que Jésus fait des miracles ou qu'il parle, les gens étaient un peu comme un aimant, là, les gens venaient à lui. Et Jésus dénonce ces chercheurs de miracles. Vous savez, l'incrédulité n'est pas d'aujourd'hui, hein? c'est pas nous qui inventons ça, être incrédule. C'était une insulte pour Jésus qui venait tout juste de faire une libération démoniaque, qui venait tout juste de rendre un muet capable de parler. Et eux, ils sont là dans leur incrédulité, ils demandent plus de miracles. Si tu nous en donnes juste un, on va croire. Juste un autre de plus, on va croire. David Gooding dit ceci, « Les gens qui exigeaient un autre signe n'auraient pas été convaincus par celui-ci ou par un certain autre nombre de signes. » Leur recherche d'un signe n'était pas une indication de leur volonté de croire si seulement les preuves étaient adéquates, mais c'était une rationalisation de leur refus de croire les preuves qui étaient déjà parfaitement adéquates dont ils disposaient. Jésus aurait pu faire des centaines de miracles devant eux et leur foi n'aurait pas été présente pareil. Ils n'avaient pas la foi pour croire ce qui était déjà devant eux et de le reconnaître. Et malheureusement, on doit nous-mêmes reconnaître, quand on regarde au portrait des églises modernes évangéliques, voir qu'une certaine partie, du moins, de l'Église moderne est remplie de ce même type de personnes, malheureusement. Et à défaut de peut-être généraliser un peu trop, les mouvements charismatiques ont tendance à regrouper ces gens qui sont des chercheurs de miracles, qui ne vont pas croire Dieu, à moins qu'ils aient vécu une expérience stimulante et extraordinaire. Cette génération de chercheurs de miracles n'est pas exclusive à celle de Jésus. Ceux qui recherchent le miracle, le spectaculaire, le divertissement, le pouvoir, la richesse, ce qu'on appelle le health and wealth là, en anglais, là, l'évangile de prospérité. Pour tous ces gens aujourd'hui et pour tous ces gens incrédules au temps de la génération de Jésus, le problème est le même. C'est qu'ils n'avaient pas la foi pour croire la révélation de Dieu. C'est aussi simple. Aujourd'hui, on a la Bible qui est la révélation complète de Dieu. Et encore, on est incrédule. Avant, il y avait Christ incarné devant eux qui faisait des miracles. Il n'y avait pas plus la foi. Il y avait besoin de plus de miracles. C'est un avertissement contre quiconque pourrait dire « Je vais croire en Jésus quand Dieu va me donner un signe. » Vous savez, Dieu n'a jamais promis de nous donner un signe. Plutôt que de chercher un signe, on devrait croire la parole de Dieu parce qu'elle a été prononcée par Dieu lui-même, parce qu'elle est une révélation divine. Donc Jésus avertit contre de telles recherches de miracles. Si notre seul but est de tester Dieu afin de voir s'il est vrai, on s'avance un jugement contre nous-mêmes. Tout comme cette génération amassait un jugement contre eux-mêmes. Ironiquement, Jésus leur dit, « Je vais vous accorder un signe, mais ce ne sera pas le signe que vous voulez. Le seul signe que je vais vous donner, c'est celui que j'ai donné à Jonas. » Et qu'est-ce que Jonas a fait? Il a été prêché la repentance et la repentance aux Ninivites. La justice de Dieu, le jugement de Dieu. Ninivite s'est converti, et justement, Jésus va utiliser cet argument-là pour essayer de convaincre les incrédules. Mais les versets 30 à 32 sont clairement un reproche de cette incrédulité. Hein, il prend l'exemple de Jonas, des Ninivites, et il prend même l'exemple de la reine de Midi, on verra un petit peu plus loin c'est qui, là, pour dire que c'est dans ces deux contextes différents, des gens moindres que Christ a été prêché un message de repentance et les gens se sont repentis. Ils n'ont pas demandé des miracles, ils se sont repentis parce qu'ils ont cru, ils ont vu que ce que le messager apportait était un message qui était vrai. Ils ont eu la foi. L'argument de Jésus ici est relativement simple. Je suis plus grand que Jonas et je suis plus grand que Salomon. Et je suis devant vous. Et vous êtes incrédules. Vous pensez vraiment que des miracles vont vous convaincre? Donc, Jésus fait référence à ces deux histoires de l'Ancien Testament qui sont relativement bien connues, celle de Jonas et celle de Salomon avec la reine de Séba. Mais de quel signe parle-t-il? Est-ce qu'il fait référence à la prédication de Jonas et de Jésus ou est-ce que ça fait référence au personnage de Jonas lui-même et au personnage de Jésus? Dépendamment de quel évangile on lit, l'emphase est mise sur des points différents. Dans Luc, on voit très bien que l'emphase est mise sur le message qui est prêché, tandis que si on va dans Matthieu, je vais le lire plus tard un peu, là, dans Matthieu, le passage parallèle dans Matthieu 12, on voit que c'est plus l'emphase est mise sur la personne elle-même de Christ et de Jonas. Mais peu importe, les deux sont vrais, le personnage et le message. Dans Luc, l'emphase est mise sur la prédication, sur le message lui-même. Jonas prêche quel message quand il va à Ninive? Il prêche un message de jugement aux Ninivites. Il dit, si vous ne vous repentez pas, voici ce qui va arriver. Et on connaît tous l'histoire de Jonas, la baleine, hein? Il ne veut pas aller à Ninive parce qu'il sait que Dieu va l'utiliser pour convertir cette nation. Donc, son jugement, c'est d'être jeté à la mer et il est sauvé par ce poisson. Mais son message est un message de jugement. Il demande aux Ninivites de se repentir. Donc, quel signe pourrait être donné à la génération perverse auquel Jésus parle? Un message de jugement. C'est le seul signe que vous allez avoir, c'est celui de Jonas. Ça va être votre jugement. C'est pas si doux comme... Et on voit en contrebalancier le message qui est prêché par Jésus. Et on l'a vu dans le dernier, dans la dernière prédication, là, qui était celle de l'arrivée du royaume, essentiellement. Il dit « Je suis le royaume de Dieu et j'arrive. Je suis plus grand que Jonas, je suis plus grand que Salomon. Je délivre les hommes de par la puissance de l'Esprit-Saint de Dieu. » Je fais le ménage et j'habite dans la maison. Deux messages différents par différents hommes, mais qui nous amènent au même point, à la nécessité de l'homme de se repentir et d'avoir la foi, de croire. Matthieu, lui, dans Matthieu 12, versets 40 à 41, on lit ceci. « Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement, et cette génération, et la condamneront parce qu'elle se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. » Donc, Matthieu, lui, va mettre un petit peu plus l'emphase sur la personne de Jésus-Christ elle-même. Puis, évidemment, on sait par ce passage que Jonas représente un type de Jésus. Matthieu va littéralement dire que le 3 jours entre la résurrection de Christ est figuratif dans le 3 jours de Jonas dans la baleine du poisson. Dieu l'avait jugé, l'avait jeté à la mer, puis si Dieu l'aurait laissé dans la mer, en passant, il serait mort. Le poisson n'était pas le jugement de Jonas, c'était sa délivrance. C'est ce que Dieu a utilisé pour sauver Jonas. Il est resté dans ce poisson 3 jours comme figure typologique de Christ et de sa résurrection après 3 jours. Et il a été amené au bord de Ninive pour y prêcher le jugement et voir la repentance de Ninive. C'est comme un microcosmos de la rédemption de l'humanité. R.C. Sproul nous dit « C'est évidemment une allusion à la résurrection. Jonas était un signe pour sa génération et Jésus accomplira un signe encore plus grand que celui de Jonas, car le signe de Jésus sera sa résurrection. C'est la résurrection du Christ qui confirme sans l'ombre d'un doute qu'il est Jésus, qu'il est celui qu'il disait être. » Pour développer encore plus son point, il ne s'appuie pas seulement sur l'exemple de Ninive et de Jonas, mais il fait aussi allusion à la reine de Séba. Et là, je ne veux pas prendre trop de temps, je vais vous donner la référence, c'est dans 1 Roi 10, dans 1 Roi 10, versets 1 à 9, si vous voulez aller relire l'histoire, mais essentiellement, la reine de Séba entend parler de la renommée de Salomon et de sa grande sagesse, et elle décide d'aller le mettre... au défi. Elle décide essentiellement d'aller lui passer un petit quiz. Et elle est émerveillée, estomaquée par la sagesse, la grandeur de tout ce que, non seulement ce que Salomon possède, mais de comment il peut répondre à ces questions, qui étaient probablement des questions difficiles, existentielles de la vie, là. Et puis elle finit par rendre gloire à Dieu et reconnaître que Dieu a béni la nation d'Israël à cause de ce qu'elle voit en Salomon. Et là, Jésus nous dit, la reine de Midi est venue de l'extrémité de la terre, est partie d'un autre pays, elle s'est rendue vers Salomon parce qu'elle avait entendu parler de sa réputation. Moi, je suis devant vous, là, je suis là. Puis vous êtes encore incrédules. Elle s'est déplacée pour voir la gloire de Salomon, tandis que ceux qui étaient devant Christ, incarné, étaient incapables de voir sa gloire. Ça parle de l'état aveugle des incrédules, évidemment. Ce que Jésus est en train de faire ici, c'est essentiellement de démontrer la culpabilité de ces gens qui sont incrédules. Ils n'ont pas cru à un messager qui était plus grand, qui était moindre que Christ, excusez. Ils n'ont pas cru Christ, mais les Ninivites ont cru Jonas. Ils n'ont pas traité Jésus de la même façon que Salomon. Et comment la reine de Midi a traité Salomon? Christ démontre non seulement sa supériorité à ces personnages historiques de l'Ancien Testament, mais il pointe vers le jugement des incrédules qui, devant lui, exigent encore toujours plus de miracles pour être satisfaits. Donc, qui jugera cette génération? Et là, dans le contexte, évidemment, Jésus parle de sa génération à lui, là. Qui va juger ces gens-là? Il dit, ça va être les Ninivites eux-mêmes, parce qu'ils se sont repentis à la repentance de Jonas, et eux vont vous juger, parce que vous, vous avez le Fils de Dieu devant vous, et vous le rejetez. C'est un jugement quand même sévère face à l'incrédulité. Évidemment, ce serait une erreur de croire que le texte s'applique seulement à la génération de Jésus. Évidemment, dans le contexte historique, elle nous parle de cette génération-là, mais les valeurs et ce qui transpire du texte s'appliquent encore aujourd'hui. Vous savez, comme je l'ai dit, l'incrédulité existe encore parmi nous. Vous avez juste à sortir des portes ici, Laurent. Pognez le premier venu que vous voyez, demandez-lui s'il croit en Dieu, là. Vous allez voir que l'incrédulité existe. On n'a pas à chercher très loin. Le texte est applicable dans son essence à tous les incrédules. Jésus n'est pas devant nous physiquement aujourd'hui, mais sa révélation est avec nous. Sa pleine et parfaite révélation qui est dans les Écritures, on y a accès. Tout homme, croyant ou pas, peut ouvrir la Bible et lire la révélation de Dieu. Si on a la foi pour y croire, c'est une autre chose. Vous savez, on pourrait aller même jusqu'à dire qu'il n'y a aucune autre raison de douter de Dieu autre que le péché. La seule chose qui empêche l'homme de croire en Dieu, c'est le péché. Le péché qui aveugle, le péché qui nous rend esclaves de Satan. Mais de chercher constamment les miracles comme ces hommes le faisaient, c'est une marque d'incrédulité. Et malheureusement, ça existe encore aujourd'hui. Au temps de Jésus, ça se retrouvait dans les synagogues parmi les Juifs. Aujourd'hui, ça se retrouve dans les églises parmi les chrétiens. Il faut faire attention, et je parle de miracles, mais on pourrait remplacer les miracles, parce que là, c'est dans le texte, c'est l'exemple des miracles qui nous est donné, mais ça pourrait être remplacé par la confiance des hommes qui est mise dans la science de notre monde, dans les bonnes œuvres, dans l'humanisme, dans eux-mêmes, dans la foi en nos gouvernements, dans la foi en les miracles, dans la foi en des pasteurs humains. Ça pourrait tout être ces choses-là. Hein? Ce n'est pas limité, l'incrédulité n'est pas limitée à seulement les miracles. On trouve tout le temps une raison de douter si on veut douter, puis si on vit dans le péché. Et si on n'a pas la foi salutaire, si on n'a pas l'Esprit Saint pour nous révéler les Écritures et nous permettre de croire, on est aveugle. C'est ce que le reste des Écritures nous enseigne. Toutes choses que Dieu donne sont bonnes. Dieu fait encore des miracles. Le salut en est une preuve. Dieu donne encore des pasteurs. Dieu permet à ce que la science nous aide à comprendre et à traiter des maladies. Dieu nous permet d'avoir des bonnes œuvres, nous permet d'avoir des gouvernements, etc. Toutes ces choses sont bonnes en soi. Mais si on place notre confiance dans ces choses, dans ces miracles, au lieu de les placer en Dieu et sa révélation, on fait fausse route. Ce texte nous rappelle par-dessus tout que l'incrédulité n'est pas un péché anodin. De refuser ou de ne pas croire en Christ fait de nous des fils de la rébellion, essentiellement. Évidemment, en tant que chrétien, on peut avoir des moments d'incrédulité, mais on ne devrait pas être caractérisé comme ces incrédules que Jésus décrit dans ce texte-là.
Et si c'est votre cas ce matin, je vous exhorte à reconsidérer votre foi. L'incrédulité est un signe de perdition. La bonne nouvelle pour ceux qui sont crédules, pour vous, je l'espère, enfants de Dieu, c'est qu'il a été permis, comme les Ninivites, vous savez, Jonas était un étranger pour les Ninivites. Et les Ninivites ont été sauvés à sa prédication. Et à ce même égard, il nous est permis, nous qui étions à l'extérieur de l'Alliance, d'y entrer en tant que païens, en tant que gentils, de faire maintenant partie du peuple de Dieu. Dans le contexte immédiat, évidemment, il est question de la génération des Israélites, du jugement de leur incrédulité, de leurs fausses accusations, etc. Mais si on prend le tout dans un grand contexte historico-rédemptif, excusez, l'histoire de la rédemption, on voit que le salut est offert et que les incrédules ne seront pas excusés au jour du jugement. Oui, Dieu donne la foi, et oui, nous avons besoin de l'Esprit Saint pour connaître et reconnaître la parole de Dieu pour ce qu'elle est. Mais quand on va se tenir face à Dieu au jugement dernier, on n'aura pas l'excuse de dire « Ah ouais, mais je ne l'ai pas, je ne croyais pas, je n'avais pas eu assez de preuves. » Et on va voir ce point dans les deux prochaines illustrations que Jésus donne. Qui sont très intéressantes, qui sont très métaphoriques, imagées, qui peuvent être un peu pas claires à la première lecture. On se dit, c'est quoi le rapport avec la lumière, la lampe? Le texte semble un peu étrange. Mais le lien est quand même relativement simple quand on le décortique un peu. Jésus relie l'idée d'allumer une bougie, ou dans notre contexte moderne, allumer une lumière, une switch, et de le mettre dans un lieu secret avec un problème, dans un lieu secret où on ne la voit pas. Est-ce que ça serait logique? Je pense que le texte, irrationnellement, nous pointe vers le fait que ce serait illogique. Si on prenait toutes les lumières ici et qu'on les mettait en dessous des bancs, ce ne serait pas vraiment pratique. Une lumière est là pour éclairer la pièce, pour que tous ceux qui entrent dans la pièce peuvent voir. Jésus nous dit, si vous voulez avoir de la lumière dans la maison, vous ne cachez pas la lampe dans un pot ou dans la cave. Vous placez la chandelle sur le chandelier, vous la mettez sur la table dans la pièce centrale pour qu'elle éclaire tout le monde. La lumière de cette chandelle, de cette source, permet aux gens avec des yeux ouverts de voir la lumière, d'être illuminés. Et c'est là que Jésus pense à son autre illustration. Là, il va utiliser l'œil comme étant la lampe du corps, disant que l'œil est la lumière du corps. Ces deux exemples ensemble forment une seule illustration. Une personne, on pourrait l'imaginer ainsi. Une personne qui serait debout dans une pièce sombre avec les yeux fermés ne verrait pas grand-chose. Hein? On ferme toutes les lumières ici, on ferme les yeux, on est dans le noir. C'est officiel. Mais si on y met de la lumière, si le chandelier est placé sur la table et qu'il y a de la lumière partout, mais qu'on garde nos yeux fermés, on est encore des ténèbres. On ne voit pas plus. Parce que notre œil est lampe, et la lampe est ce qui permet à la lumière de rentrer dans nous et d'illuminer tout notre corps, de voir. Jésus utilise les sens pour nous faire réaliser que si on n'ouvre pas les yeux dans une pièce illuminée, on ne verra pas plus. Dans ce sens, l'œil est la lampe pour la lumière. Le commentaire grec du Nouveau Testament, nous dit ceci qui est intéressant. Dans la seconde illustration, nous avons une utilisation et une application différente du terme luxnos, qui est évidemment le terme grec pour lumière. On dit ici que la lumière est donnée au corps par l'œil qui agit comme une lampe de l'intérieur, dans le sens où la lumière pénètre dans le corps par l'œil. L'œil est considéré comme recevant la lumière de l'extérieur du corps. Et c'est important parce qu'on peut lire ce texte-là et avoir l'impression que la lumière jaillit d'en dedans. Ce n'est pas le cas. Ce que Jésus est en train de dire, c'est qu'on allume une lumière, on la met dans la pièce, elle éclaire la pièce, et quand on rouvre les yeux, elle rentre dans notre lampe, dans les yeux, elle éclaire notre corps, et elle illumine notre être et nous permet de comprendre. La source de lumière, c'est ce qui est dans la pièce. Évidemment, dans le contexte, Jésus parle de lui-même. Il parle de sa révélation, il parle de sa personne, de son œuvre. Jésus utilise ce point pour illustrer les exigences nécessaires pour réellement voir et reconnaître les signes de la résurrection. Ce n'est pas que les preuves étaient insuffisantes ou que la lumière de Dieu était trop faible. Dieu a donné au monde entier toutes les preuves nécessaires à son existence. La création, Romains nous dit, la création parle indéniablement d'un créateur. Il a aussi donné des preuves indéniables de la divinité de son Fils Jésus-Christ, d'ailleurs par les nombreux miracles qu'il a accomplis, par les nombreuses promesses de l'Ancien Testament qu'il a accomplies. Et surtout, en brisant les liens de la mort à la résurrection, ce qui nous a démontré hors de tout doute que Christ était le Messie, s'il y avait encore un doute à ce point-là. Cependant, Jésus lui-même nous avertit dans Jean 3, verset 19, « Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur œuvre était mauvaise. » Quand Dieu illumine le monde, donne des preuves de sa divinité, la lumière est placée sur le chandelier. On vit dans un monde où la création elle-même témoigne de la lumière divine. Les hommes et les femmes méchants de cette génération, tout comme la génération de Christ, ferment les yeux. C'est ce que Christ est en train de dire. La lumière est là, vous fermez les yeux et vous restez dans les ténèbres. Lorsque nos vies sont caractérisées par le péché, et qu'on est un pécheur non repentant là, dans le contexte, on est des créatures des ténèbres et on manifeste le fait qu'on est des fils de la rébellion. Par quoi? Par l'incrédulité, par le fait que l'on rejette Christ et son œuvre. Et la chose que les incrédules craignent le plus, c'est d'être exposé par la lumière et d'être mis à nu dans toutes leurs mauvaises œuvres. Jésus nous rappelle avec cette illustration puis avec ce texte ce matin, évidemment, qui, je ne veux pas dire qu'il ne s'applique pas à nous, parce qu'il s'applique à nous d'une certaine façon, mais il ne parle pas directement à des chrétiens. De toute évidence, Jésus reprend des gens qui ne sont pas croyants. Mais il y a une leçon à apprendre pour nous dans ça. Jésus nous rappelle, avec ses illustrations, que l'incrédulité n'est pas un problème intellectuel. L'incrédulité est un problème moral. Ce n'est pas un manque de preuves que ces gens incrédules, qui justifiaient l'incrédulité de ces gens. C'était un problème de cœur, un problème moral. Malgré un monde qui est rempli de lumière, de la majesté de Dieu, les hommes ferment les yeux et leur corps reste dans les ténèbres. Leur esprit est aveugle, ils ne voient pas la gloire de Dieu. Et donc ce matin, si on peut en faire une application positive pour nous en tant que chrétiens, c'est qu'on peut rendre gloire à Dieu, que nous ne sommes pas incrédules et aveugles. Et si vous n'êtes pas incrédule et aveugle ce matin, c'est pas parce que vous êtes plus fin que les autres, c'est parce que Christ, par sa grâce, vous a permis de voir et de reconnaître sa révélation pour ce qu'elle est. Par l'Esprit Saint qui vous habite, vous reconnaissez l'épreuve qui a été mise devant vous. La lumière de Christ nous habite, puisque nous sommes chrétiens, et elle nous témoigne de sa majesté et de sa gloire et de sa supériorité dont Christ lui-même parlait dans ce passage. Mais dans un sens, cette illustration que Jésus donne à la fin est un avertissement aussi. C'est un avertissement de faire attention à ce que nous mettons devant nos yeux. Sachant que nos yeux sont comme une lampe et qu'ils reçoivent la lumière, on peut soit nourrir notre âme de choses qui sont bonnes, de la parole, de la famille, de tout ce qui est bon, de ce que Dieu nous a donné, ou on peut les nourrir de cochonneries. En anglais, on a un dicton qui dit « garbage in, garbage out ». Hein? Des ordures qui rentrent, des ordures qui sortent. Si on nourrit l'âme et notre pensée par ce que l'on voit et que ce que l'on regarde est indigne de Christ et de notre foi, ça va avoir une répercussion, même chez le chrétien. Les chrétiens qui fixent leurs yeux sur le monde, sur ses problèmes, qui gardent leurs yeux fermés pour un moment ou qui se concentrent à plaire au monde, sont tous en danger d'incrédulité. Évidemment, ça, je ne suis pas en train de sous-entendre qu'on perd notre salut, là, soyons clairs. Mais on peut avoir des moments d'incrédulité, même en tant que chrétien. On peut douter parfois de la sincérité de Dieu pour nous, douter de la sincérité de sa bonté pour nous, parce qu'on vit certaines épreuves. Mais Christ nous fait voir sa lumière et par le Saint-Esprit, nous comprenons son évangile. Mais ce n'est pas un prétexte pour ne pas regarder à Christ et de ne pas se nourrir de bonnes choses. La vie chrétienne n'est pas une histoire d'un jour. C'est pas une histoire de « je suis sauvé de mes péchés et là, je me mets à revivre comme tout le monde ». La vie chrétienne requiert ce qu'on appelle une consécration. On se consacre à Christ à chaque jour. Et on vit de façon conséquente. Et parfois, on bronche parce qu'on est faible, on se repent et on repart. Mais elle requiert que les enfants de Dieu nourrissent leur foi par cette belle image de l'œil qui est la lampe du corps et de l'âme. L'œil qui regarde de bonnes choses et qui se nourrit des paroles et de la révélation de Jésus-Christ va être bien nourri, va être fortifié. Mais vous savez, l'inverse est vrai. Si vous voulez avoir la meilleure solution pour être faible, anxieux, toujours troublé, ben nourrissez-vous de cochonneries. Allez jamais voir la révélation de Dieu. Passez votre temps à écouter la télé. J'ai une TV chez nous, en passant. C'est pas la télé qui est mal, c'est ce qu'on met tout le temps devant nos yeux. Si on se nourrit de mauvaises choses continuellement, évidemment qu'on va être faible en tant que chrétien. Ça va de soi. Ce principe n'a jamais été plus clair pour moi que dans les 6 derniers mois. Si dans les 6 derniers mois, votre TV était ouverte, vous êtes devenu soit paranoïaque, anxieux ou certain que vous alliez mourir, là. Si votre TV n'était pas ouverte comme moi, ben ça vous dérange pas vraiment. Et je veux pas dire qu'on doit être insouciant là, dans notre façon d'aborder ces choses-là, mais clairement, l'anxiété et la crainte nous vient de ce qu'on met devant nos yeux. Et si vous avez des enfants, vous savez aussi à quel point ils sont influencés par ce qu'ils voient, par ce qu'ils regardent. C'est pas compliqué. Si mes enfants écoutent un petit bonhomme Lego dans lequel ils se battent, une demi-heure après que j'ai fermé la TV, ils se battent. Parce qu'on est comme ça. Dieu nous a créés, on a des yeux, on reçoit l'information, puis ça reste là. On est influencé par ce qu'on voit. Donc faisons bien attention, c'est en même temps c'est une bénédiction pour nous parce qu'on se rend compte quand on lit un texte comme ça qui est lourd de sens pour les incrédules, mais on se rend compte que pour les chrétiens, c'est une bénédiction parce que nous sommes crédules. Ce n'est pas à nous là, que Jésus parle. Ça nous fait réaliser à quel point Dieu nous a fait grâce et à quel point on doit quand même faire attention et être vigilant face à ce qu'on met devant nos yeux et face à ce qu'on nourrit notre âme. Ne vivons pas comme ces incrédules de cette génération de Jésus qui ont vu, mais qui n'ont pas cru en Christ. Prions. Merci Seigneur, parce que dans ta grâce, dans ta bonté, un jour tu as sauvé notre âme de nos péchés, de l'enfer que nous méritions. Nous qui étions incrédules de cœur, tu nous as donné un cœur de chair, tu as transformé nos cœurs. Tu as mis en nous la foi nécessaire pour croire en ta révélation. Merci parce que toutes ces œuvres sont les tiennes, mon Dieu. Et combien nous te remercions d'avoir fait cette si grande œuvre dans chacune de nos vies ce matin. Merci pour tes enfants qui sont ici. Nous te prions, Seigneur, de nous rendre attentifs et vigilants face à ce que nous mettons devant nos yeux. Permets-nous de nourrir notre âme de bonnes choses. Permets-nous de vivre dans ce monde, mais pas comme ce monde. Pardonne-nous nos moments d'incrédulité. Pardonne-nous notre faiblesse. Et merci, Seigneur Dieu, parce que tu as payé pleinement pour tous nos péchés, pour tous nos manquements à la croix. Amen.